Dans l'épisode précédent...
Qu'est-ce qui vous fait peur, quoi? Les cheveux longs? La musique hippie? Non, ils veulent ni des cheveux longs, ni de la musique hippie à aucun prix. L'hostilité de certains habitants vis-à-vis des organisateurs, de leurs équipes et de ceux qui les logent monte de plusieurs crans. On balance devant leurs bungalows des seaux d'ordures et de purins, on jette des pierres contre les fenêtres, des slogans orduriers sont peints sur les murs, on menace même d'empoisonner les puits et de détruire les pompes qui alimentent en eau potable cette population de jeunes gens qu'on n'a pas renoncé encore à faire fuir.
Ladies and gentlemen, if you please.
France Inter et la RTBF.
How are you out there? Are you okay?
Woodstock, 1969.
We must be in heaven, man.
Mishka Assayas.
Eh bien voilà, nous y sommes très exactement le vendredi 15 août 1969, en milieu d'après-midi. Une masse, une horde de jeunes gens déferle vers la ferme de Max Yasger, à une heure de voiture, au nord de New York. Ils sont très chevelus, ils sont très nombreux, bien plus qu'on ne l'imaginait, et c'est une sorte de chaos qui fait peur à certains. C'est le premier des trois jours de paix et d'amour. Time has come today, le temps est venu aujourd'hui. Un des hymnes, sinon l'hymne du psychédélisme californien. Ses interprètes s'appelaient les Chambers Brothers, les frères Chambers, je m'empresse de le préciser, ils n'étaient pas au festival de Woodstock. Le vendredi 15 août, à 17h, à l'heure où le festival doit commencer, les organisateurs ne contrôlent plus rien. Toutes les routes aux alentours, dans un rayon de plus de 30 km, sont bloquées. Chacun a abandonné son véhicule là où il le pouvait. Des minibus bariolés aux couleurs psychédéliques ont dû s'arrêter après avoir transporté sur leurs toits et leurs pare-chocs des vingtaines de freaks agrippés tant bien que mal, comme à Bombay en Inde. Celui des célèbres Merry Pranksters californiens, référez-vous au premier épisode de notre série, disponible bien sûr en podcast, a fait le voyage. Depuis deux nuits, on rejoint le site à pied, sous des averses répétées. Les gens continuent à affluer de partout, marchant pieds nus sur un terrain qui peu à peu se transforme en bourbier, voire en marécage. Ils portent sur leur dos couvertures, ponchos, sacs de couchage enroulés, sacs à dos, d'où pendouillent des jerrycans. Alors, pour nous décrire ce que fut ce spectacle dantesque, eh bien, nous avons la chance d'avoir un témoin privilégié. Il y a de ça 10 ans, j'ai eu la chance d'avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un qui est arrivé à Woodstock à ce moment-là et qui n'est pas n'importe qui. Maurice Esserman était alors un étudiant de 18 ans, issu d'une famille de Quakers très engagée à gauche. Il venait d'achever sa première année d'études à Reed College, sur l'autre côte ouest, à Portland, dans l'Oregon, quand il a entendu l'appel de Woodstock. Alors depuis, Maurice Sorman a fait du chemin, il est devenu un grand spécialiste universitaire de l'histoire sociale et de la nouvelle gauche aux États-Unis.
J'ai eu de la chance. Je suis arrivé en voiture le vendredi, le premier jour du festival. Il n'y avait aucun moyen d'arriver là autrement qu'en voiture. C'était une région très rurale. Dès le vendredi soir, ils ont fermé la New York State Thruway, la route principale pour aller là-bas, tellement il y avait du monde. Je crois qu'on est arrivé à se faufiler juste avant qu'il la ferme. Après, on a avancé à une vitesse d'escargot pendant des heures et des heures sur des kilomètres, avant d'arriver à un pâturage où on a monté notre tente pour la nuit. Nous, on avait acheté nos billets à l'avance. Mais en fait, on était une minorité.
Seulement voilà, personne ne l'a prévenu, lui et ses amis, qu'entre-temps, les organisateurs avaient abattu les clôtures, enfin aidés par certains festivaliers qui n'hésitaient pas à prendre certaines initiatives, et que c'était devenu un concert gratuit. S'il l'avait su, bien sûr, il aurait marché dès le premier soir et il serait rentré directement. Alors il a dû camper dans ce pré boueux où il y avait eu un véritable déluge.
On était complètement trempés. Le lendemain matin, on a enroulé nos sacs de couchage tout crottés, on a rangé nos affaires dans la voiture, et puis on a marché sur environ 4 kilomètres. C'était très excitant. On savait que quelque chose allait se passer. Il y avait 10 dizaines de milliers de gens qui marchaient vers le site du festival. On est passé où on voulait. On a marché à travers les bois. Il y avait des stands où on pouvait s'acheter à manger. Et puis, une fois passé le sommet de la colline, on a regardé en bas et on a découvert un immense amphithéâtre naturel. C'était un pâturage. Normalement, on aurait dû y voir des vaches. Mais au lieu de ça, il y avait des centaines de milliers de gens et une scène au loin. On est resté bouche bée. C'était un spectacle inoubliable.
De fait, le spectacle est partout. Autour de l'amphithéâtre naturel de White Lake, des centaines de tentes de toutes dimensions et couleurs, jaune, rouge, bleu, flottent comme des voiles sur une mer de jeunesse au milieu d'un enchevêtrement de pick-up et de minibus. On parle de 500 000 personnes. D'ailleurs, qui peut vérifier? Il n'y a plus de palissade, il n'y a pas de guichet où présenter ses tickets. Les gens arrivent de partout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien plus de monde que prévu, 10 fois, peut-être 20 fois plus. Les organisateurs n'ont même pas eu le temps de craindre le chaos. Celui-ci s'est installé avant même que le festival n'ait commencé et il est total. Le gouverneur de l'État de New York, Nelson Rockefeller, déclare le site de White Lake zone sinistrée. Et pourtant, il va se produire un miracle.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
strikes deep. Into your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop.
Encore un groupe qui n'était pas à Woodstock, le Californien Buffalo Springfield, créé à Los Angeles par Stephen Stills avec un très jeune Neil Young. Mais cette chanson de 66, For What It's Worth, entre parenthèses Stop Hey What's That Sound, était dans toutes les têtes. C'était l'hymne d'une jeunesse turbulente qui, sur le Sunset Strip de Los Angeles, vous savez, c'est le grand boulevard où se trouvaient toutes les boîtes où on écoutait de la musique, une jeunesse qui ne respectait pas le couvre-feu imposé alors par les résidents. Ceux-ci étaient en effet arrivés à obtenir de la municipalité qu'elle interdise aux jeunes de prendre leur voiture et de faire du bruit passé 10 heures du soir. Il y avait eu en conséquence des affrontements avec la police. Par la suite, For What It's Worth s'est imposé comme une sorte d'hymne de la jeunesse contestataire dressée contre la répression policière.
Very Good Trip. Woodstock 1969 sur France Inter et la RTBF. Mishka Assayas.
Alors à White Lake, enfin on va dire Woodstock, hein, même si c'est géographiquement inexact, pour faire simple c'est mieux, c'est pas la guerre, mais c'est le chaos. Il est 17h et la musique doit commencer. Mais les musiciens et les camions contenant leurs équipements sont eux-mêmes immobilisés. Dans ces conditions, on peut considérer comme un miracle que la sonorisation, inédite pour un lieu d'une telle ampleur, hein, pas loin de 300 hectares en plein air, soit au point. Mais ça n'a rien d'un hasard. Le responsable du son, Bill Henley, est un pionnier des grands espaces. C'est lui qui a conçu des systèmes nouveaux pour le festival de jazz de Newport, hein, dans l'état de Rhode Island, également lui qui a sonorisé la toute dernière tournée des Beatles en 66, et puis plus récemment, le grand festival de Miami. Henley a élaboré pour le festival de Woodstock des plateaux tournants et une amplification sur mesure. Deux tours d'enceinte ont été disposées dans le champ pour que le son puisse atteindre tous les festivaliers. Il a soumis le matériel et les installations à toute une série de tests, et le pouvoir total de la sono au festival est de 10 000 watts. Tout tiendra malgré les pluies diluviennes, le maillon faible étant le matériau utilisé pour servir de plancher au plateau qui, sous l'action de la pluie, s'affaissera en plusieurs endroits. Sans parler des bâches qui se perceront au-dessus de la tête des musiciens. D'ailleurs, le groupe Grateful Dead, on y reviendra, devra jouer ainsi au péril de la vie des musiciens avec de l'eau jusqu'aux chevilles. En tout cas, Henley et son équipe sont bien les seuls à être prêts. Les installations électriques ne sont pas complètement achevées, ce qui empêche les groupes disposant d'un important matériel amplifié de se produire encore trop de risques. Et puis de toute façon, leur groupe de rock'n'roll parodique Shanana, d'ailleurs précurseur sans le savoir du glam rock et de la mode disco, qui doit ouvrir les festivités, n'est pas arrivé. Il est bloqué sur les routes, comme tout le monde. Alors les organisateurs ne savent plus à quel saint se vouer, et tout à coup, idée fulgurante, ils ont une solution. Ils vont demander aux uniques musiciens déjà présents sur place, eh bien, de jouer plus tôt que prévu, afin que le festival puisse commencer à l'heure. Premier miracle, Richie Havens est là.
Let's welcome Mr. Richie Havens.
Personne ou presque connaît ce New-Yorkais qui a été coincé comme tout le monde dans les embouteillages et qui a pu vraiment, par chance, monter dans un hélicoptère qui a été prêté par un fermier local. On l'a fourré dedans, lui, deux guitares et une paire de congas. Alors il reste aux organisateurs une option, lancer Richie Havens sur scène tout de suite. Le chanteur, évidemment, est mort de peur, il n'a jamais joué devant une telle foule. Et il lâche à l'un des organisateurs, Michael Lang, qui insiste. Mais quoi, tu veux qu'il massacre, c'est ça? Mais il n'a pas le choix, il y va. Alors, il faut savoir que c'est tout à fait incongru par rapport au public qu'il a face à lui, parce que Richie Havens n'a strictement rien d'un hippie. Il n'a aucun lien avec la musique psychédélique. C'est l'enfant d'un quartier pauvre du Brooklyn des années 50. Il a débuté en chantant des hymnes gospel avec ses camarades au coin des rues à New York. Il s'est joint avec enthousiasme au mouvement en faveur des droits civiques pour les Noirs, qu'il a vu émerger dans les cafés de Greenwich Village avec John Baez et Bob Dylan. Et dans les années 60, enfin les habitants de New York pouvaient voir Richie Havens dans le quartier qui chantait des gospels, et ainsi d'ailleurs que des mélodies de Dylan et des Beatles. Il s'accompagnait à la guitare selon une technique tout à fait particulière qu'il avait mise au point. Il accordait son instrument en mi majeur, donc en accordage ouvert, et il l'attaquait selon une technique percussive qui n'appartenait qu'à lui. Alors voilà, à 17h, Richie Havens, barbu, vêtu d'un boubou orange, c'est un peu l'habitude chez les sympathisants du Black Power, ils aiment à se vêtir de tenues traditionnelles africaines, le voilà donc qui déboule seul sur la scène du festival. Son passage est censé durer simplement une heure. Mais comme, au bout du temps prévu, personne d'autre n'est encore arrivé pour lui succéder, eh bien, les organisateurs lui demandent de chanter une heure supplémentaire, puis une autre encore. Alors le pauvre Richie Havens prolonge ses chansons tant qu'il peut, comme il peut. Son boubou, collé sur le dos par la sueur, il termine son marathon éreinté en étirant à l'infini un hymne gospel, « Sometimes I feel like a motherless child », où il répète le mot « freedom, freedom » à la manière d'une incantation. Et puis il se lève, et pris d'une sorte de transe, il gratte sa guitare avec une énergie inépuisable, parcourant la scène de long en large. Le public se lève comme un seul homme, l'acclame, crie sa joie. La prestation de Richie Havens restera une des plus mémorables du festival, un moment de légende, le premier.
Mother, mother, mother.
Richie Havens quitte à toute allure les lieux en hélicoptère pour retrouver sa voiture et gagner l'aéroport de Newark, d'où il doit s'envoler aussitôt après pour un autre concert. Il croise une interminable procession de voitures montant vers le site du festival depuis la région de New York. Il se rappellera avoir été bien, je cite, « le seul ce jour-là à faire la route du nord vers le sud ». Mais sur place, pour lui succéder, il n'y a absolument personne. Tous les musiciens attendus sont coincés dans les embouteillages. Que faire ? Les organisateurs décident de faire monter sur scène un maître yogi indien, ils avaient prévu de lui donner la parole à un moment donné, Satchidananda Sarasvati, récemment arrivé du Sri Lanka aux États-Unis, à l'invitation du peintre pop new-yorkais Peter Max, dont il est, pour ainsi dire, le gourou. Arborant une grande barbe blanche, vêtu d'une robe orange, le gourou se dirige vers le large podium orné d'un tissu blanc qu'ont disposé ses disciples, drapés dans des saris jaunes et blancs, venant cérémonieusement s'asseoir en tailleur autour de lui. Il exalte le pouvoir pacifique de cette immense foule de jeunes gens, paisiblement étendus face à lui, et qualifie de céleste la musique qu'ils sont venus écouter. On entonne bien, fait-il remarquer, des chants martiaux pour exalter les guerriers au combat, alors pourquoi inversement n'existerait-il pas des hymnes cosmiques pour entraîner les masses vers une paix universelle ? Le sage rapporte une conversation récente qu'il a eue avec le petit-fils du Mahatma Gandhi, inquiet de ce qui traverse cette Amérique en pleine confusion. Je cite les paroles du gourou. « Je lui ai répondu que l'Amérique avait déjà porté secours au reste du monde sur un plan matériel, mais qu'il lui restait à accomplir une mission sur le plan spirituel. » Et voici devant ses yeux la réponse éclatante, la présence même d'une foule jeune et pacifique à ce festival, qui est le premier article de ce nouvel évangile appelé « À conquérir le monde ». Satchidananda évoque ensuite ce qu'on appelle en sanskrit les bijaksharas, des monosyllabes, ces mots-graines qui sont à la source des mantras et qui sont censés faire résonner en chacun la conscience créatrice de l'univers. Il fait ainsi scander à la foule « Hari Om, Hari Om, Hari Hari, Hari Om » selon un rythme qui s'accélère, après quoi il réclame une minute de silence pour que tous ressentent, je cite, « le grand pouvoir de cette vibration musicale et la paix merveilleuse qu'elle peut faire naître en chacun de nous et dans le reste du monde. » Alors il y a un témoin présent qui a raconté des années plus tard ce qu'il en pensait, il s'appelait Glenn Weiser, c'était alors un lycéen de 17 ans, il était venu avec sa bande de copains, il avait déjà fumé pas mal d'herbes et pris même du LSD, il se rappelle avoir fait la moue. J'ai trouvé son discours bidon, tout le monde savait très bien que c'était une super fête pour prendre des drogues, rien de plus. Malgré les invocations du gourou indien, c'est vrai, les vibrations sont pas si bonnes que ça. Pendant la fin du concert d'un groupe qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire, Sweetwater, la pluie a de fait redoublé, ça devient vraiment un déluge. À ce moment-là, il y a un jeune chanteur de 20 ans à peine qui s'élance sur scène, Burt Sommer. Alors plus hippie que lui, franchement c'est difficile. Ce New-Yorkais a un visage angélique surmonté d'un immense casque frisé de cheveux noirs, ceux-là même qu'on a immortalisé sur l'affiche de la comédie musicale hippie Hair, qui triomphe alors à Broadway et qui va faire évidemment le tour du monde. Burt Sommer se présente sur scène armé de sa guitare sèche, accompagné d'un bassiste et d'un guitariste électrique qui l'encadre, fournissant un accompagnement feutré. Son interprétation de la chanson America de Simon & Garfunkel est un sommet qui déclenche l'enthousiasme de la foule qui se dresse comme un seul homme. Mais sa chanson la plus connue s'appelle Jennifer. Burt Sommer, vous allez l'entendre, a une voix haute et cuivrée, un peu nasale, au vibrato soutenu et une sensibilité à fleur de peau qui rappelle Donovan, c'est bien de s'en souvenir. Jennifer's heaven for Jenny yesterday. Skin shining white as a dove. Lying beside her and melted away into the river of love. Counting the ways that she smiles. Time is slipping away, yeah. Lost in the arms of her love. So gentle and wild.
Jennifer, something you handle with care, fragile as crystals of glass. Jennifer's lips are as soft as the air, kissing her here in the grass.
Whoa, I'm lost in a maze, counting the ways that she smiles. And time is slipping away, yeah, lost in the arms of her love,
so gentle and wild. Jennifer's heaven, for Jenny I'd stay, skin shining white as a dove. Lying beside her I melted away into her river of love, into her river of love, into her river of love.
Le soleil se couche alors que s'achève le passage de Bird Summer. La nuit va bientôt tomber sur le champ de White Lake et ça commence à devenir plus qu'inquiétant, carrément catastrophique. Aucun des musiciens prévus n'est encore arrivé. L'improvisation est totale. Enfin, aucun, non. C'est pas tout à fait vrai. Il y en a un qui, selon certains témoignages, se terre, mort de peur, sous la scène. Il s'appelle Tim Hardin. Il était programmé, mais pour le lendemain. Ce résident de Woodstock, donc c'est un local, il est arrivé avec ses musiciens un peu dans les temps, par miracle. Il est sous l'emprise d'une substance très puissante, vraisemblablement des amphétamines. Alors quelques jours auparavant, en vue des répétitions, il a accueilli ses musiciens chez lui, tout nu, sans manifester le moindre embarras. Et puis quelques jours après, rhabillé, il est arrivé en voiture au motel où se trouvait déjà Janis Joplin, toujours une bouteille de scotch à la main, Sly Stone et Ravi Shankar. Un hélicoptère est alors venu les chercher. Alors arrivé sur place, Tim Hardin redescend lentement et se déclare incapable de chanter et de jouer, même sous la contrainte, c'est pour ça qu'il se cache. Un de ses accompagnateurs pense qu'en vérité il simule et qu'en réalité il est simplement mort de trac face aux quelques 50 000 personnes déjà présentes. Alors on finit par le débusquer et Tim Hardin finit par y aller. Un spectacle quasi surnaturel l'attend, lui et ses musiciens. Comme la nuit est presque tombée, un chant de petites flammes tremblantes se met à parcourir la foule. Beaucoup brandissent un briquet, d'autres ont allumé des bougies que les membres de la Hog Farm, on y reviendra, ont eu l'heureuse idée de distribuer. Une voûte céleste inversée scintille dans cet amphithéâtre miraculeusement enchanté. Un cri d'acclamation unanime accueille ce spectacle, la foule prend conscience de son pouvoir magique. Cette illumination spontanée deviendra d'ailleurs un moment de recueillement rituel attendu de tous lors de tous les vastes rassemblements de rock futurs, en plein air ou pas, à la portée vaguement solennelle. C'est vrai, avant le 15 août 1969, dans ce champ près de White Lake, on n'avait jamais, encore jamais vu ça. Sur scène, passé ce bref moment d'émerveillement, le malaise règne. Tim Hardin, qui semble hébété, le regard fixe, s'est avancé en vacillant. Sa voix, habituellement magnifique, manque d'assurance et son accompagnement à la guitare semble enlisé. Ses musiciens s'efforcent de suivre ses hésitations et l'ensemble de sa prestation s'apparente plutôt à une répétition en public. Cette version de son classique « If I Were a Carpenter » d'ailleurs, qui a été adaptée par Johnny Hallyday à l'époque sous le titre de « Si j'étais un charpentier », est celle que Tim Hardin a enregistrée en studio, de loin supérieure à celle qu'il sert ce soir-là sur scène.
If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? Save my love for sorrow, save my love for lonely. I've given you my tomorrow, love me only. If I worked my hands in wood, would you still love me? You answered me quick, Tim, I could. How could you above me? If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your colored blocks, soft shoes shining? Save my love for loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, given me your tomorrow. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Could you have my baby?
Very Good Trip, Woodstock 1969, Mishka Assayas.
Le récital de Tim Hardin est interrompu par une annonce de John Morris, qui est le régisseur du festival. Écoutez-moi bien, on m'informe qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne sais pas où, qui est en train de distribuer des pilules d'acide de forme plate et de couleur bleue. C'est du poison. C'est hyper sérieux, les gars. On m'apprend qu'il y a 4 ou 5 personnes qui sont malades. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'adresse à lui du côté de la scène. Ah bon ? 15 ! Alors, je sais pas où t'es, mec, mais j'aimerais bien te choper. Alors après, Tim Hardin reprend le concert et stupéfie ses musiciens qui ont d'ailleurs en ont vu d'autres avec lui et qui se demandent s'il a pas lui aussi goûté par hasard à l'une de ses néfastes pilules bleues en annonçant à un moment donné qu'il va chanter une chanson qu'il n'a pas encore écrite. Un malentendu à la fois magnifique et déconcertant se prépare alors. Le maître du sitar indien, peu de temps après, Ravi Shankar s'apprête à monter sur l'estrade qu'on a disposée pour lui couverte d'un tapis brodé. Alors une communion semble se préparer entre lui et les hippies étendus sous la nuit étoilée. Shankar a près de 50 ans et le plus âgé des musiciens invités à jouer au festival. Il n'a en fait aucune, mais alors aucune affinité avec les hippies, ni avec leur musique psychédélique, ni avec leur mode de vie, ni avec leur spiritualité nébuleuse. Bien qu'il n'ait rien à voir avec la méditation transcendantale et ne cherche à délivrer aucun message spirituel particulier, on assimile confusément Ravi Shankar au courant qui a poussé les Beatles à suivre l'enseignement du Maharishi Mahesh Yogi dans le nord de l'Inde à l'automne 1967. Bref, c'est comme on disait pas à l'époque, mais comme on dirait aujourd'hui, tout ça est très, très tendance. Et quand Ravi Shankar et ses deux accompagnateurs investissent la scène du festival, la pluie se met à retomber. L'accordage des instruments en pâtit et le maître doit s'interrompre à plusieurs reprises. Le public commence à s'agiter et à se dissiper et les longs ragas du trio réclament sérénité et concentration, ce qui est devenu impossible vu les circonstances. Mais enfin, le malentendu est peut-être plus profond. Ravi Shankar, c'est un homme d'un autre temps, même s'il peut éprouver de la sympathie pour les hippies, il est profondément choqué par le recours aux drogues qui, selon lui, brouillent la perception de sa musique et même en annihilent les faits, sans parler du sexe libre et débridé auquel certains n'hésitent pas à se livrer sous ses yeux, ce qui heurte sa grande pudeur. Et dans une interview que Ravi Shankar donnera plus tard à la Radio Nationale aux États-Unis, il s'expliquera sur ce point. Combien de fois ai-je dû expliquer à mes jeunes amis qu'il faut écouter cette musique avec un esprit pur? Elle a le pouvoir de vous faire décoller. Comme j'avais donné des leçons à George Harrison, et que j'étais devenu pour ainsi dire son gourou, eh bien ils voulaient que moi aussi, je devienne leur gourou. Alors ils venaient à mes concerts complètement défoncés, sous LSD, ils étaient là à crier, à hurler, à mal se conduire, à faire mais tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors je leur ai dit, quand vous allez écouter Bach, Mozart ou Beethoven, est-ce que vous vous comportez comme ça? Bon, cela dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'y allaient pas. Les hippies écossais du groupe folk The Incredible Strength Band, qui doivent succéder à Ravi Shankar, se montrent effarés. Ils voient l'eau tomber de la bâche qui couvre la scène, jonchée de flaques dans lesquelles trempent des fils électriques. Les Écossais refusent catégoriquement de jouer, terrifiés à l'idée de mourir électrocutés. Les organisateurs ne savent trop que faire. Artie Cornfield a alors une idée, Mélanie. Personne ou presque ne connaît cette chanteuse folk new-yorkaise, âgée simplement de 22 ans.
On partageait les mêmes bureaux que les organisateurs du festival. Et très naïvement, je suis allée les voir en leur disant « J'adore cette idée de 3 jours d'amour, de musique et de paix. Est-ce que je pourrais participer aussi ?» Ils m'ont dit « Ok ». Je n'étais pas sur l'affiche, mais ils m'ont dit que je pouvais le faire quand même. J'étais en train d'écrire des chansons en Angleterre, donc j'ai dû prendre l'avion jusqu'à Woodstock. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais.
Mélanie, la peur au ventre, a pris la route avec sa mère. Et comme tout le monde, elles ont mis des heures pour arriver à l'hôtel qu'on leur a attribué. Alors là, elle est fortement impressionnée. Elle voit des stars qu'elle n'avait jamais croisées, comme Janis Joplin et Jimi Hendrix. Seulement, elle apprend qu'en fait, il n'y a pas de place pour elle, qu'on a simplement prévu une petite tente dans les bois et que de toute façon, elle est attendue sur scène d'un moment à l'autre. Et puis d'ailleurs, il y a un hélicoptère qui doit venir la chercher là tout de suite. Il est là, il faut monter dedans maintenant. Mélanie demande à y embarquer avec sa maman. Et le pilote répond « Non, 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 on ne prend pas les mamans. » L'engin décolle et emmène au festival une Mélanie hagarde, complètement désorientée. Elle se retrouve catapultée au milieu de dizaines de milliers de personnes, elle qui n'a jamais joué que face aux clients des bars folk de Greenwich Village. Et quand elle voit la pluie tomber pendant le concert de Ravi Shankar, elle se dit « Ouf, sauvée, fausse alerte, on ne va rien me demander, c'est annulé. » Et puis, elle entend « Wavy Gravy » de la Hog Farm, on y reviendra, annoncer que les membres de sa communauté vont distribuer des bougies. Alors selon une autre version, vous l'avez entendu, je vous l'ai raconté, l'opération aurait en fait commencé dès la tombée de la nuit, juste avant le récital de Tim Hardin. Vous ferez une idée par vous-même. Soudain, quelqu'un dit à Mélanie « Allez, c'est à toi ». Et la chanteuse a souvent raconté par la suite avoir vécu une expérience de dissociation du corps et de l'esprit dont ont souvent témoigné les personnes en proie à ce qu'on appelle le syndrome de mort imminente. Et pourtant, précise la chanteuse, j'étais innocente en ce temps-là, je ne prenais aucune drogue. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'ai quitté mon corps et je me suis pour ainsi dire réveillée en chantant « Beautiful People », soit la 3e chanson de son récital. Et ce qu'elle voit, Mélanie, face à elle, c'est un chant de petites lumières à l'infini. Elle chante d'une voix stridente, comme désespérée, et gratte sa guitare avec une énergie intense. En à peine une demi-heure, elle est passée de l'ombre à la lumière.
I do every morning. That's gotta tell you something. We got so much in common.
sometimes, somehow.
Il est presque minuit et les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. La pluie ne cesse pas et paraît-il, maintenant, un orage menace. Les organisateurs se demandent si dans ces conditions, il est bien prudent d'envoyer des musiciens sur scène. Pour le chanteur Arlo Guthrie, c'est l'aubaine. Il est persuadé que sa prestation va être annulée à cause du temps. Il déniche un lot de bouteilles de champagne qui ont été mises de côté par la régie pour célébrer l'heureuse conclusion du festival qui n'est pas encore arrivée. Et il s'arrête d'ailleurs même pas en si bon chemin puisque Arlo Guthrie puise dans sa trousse de pharmacie personnelle et gobe une pilule de LSD. C'est à peu près le moment que choisissent les organisateurs pour se raviser. Finalement, ils décident d'envoyer Arlo Guthrie et ses accompagnateurs sur scène. Il faut y aller. Alors les yeux embrumés, l'élocution déjà un peu brouillée, la voix qui déraille, Arlo commence par chanter son hymne « Coming into Los Angeles » où il raconte les déboires du hippie ordinaire qui voyage en stop, moto ou auto, hein, d'état en état, avec son sac de substances et qui s'efforce d'échapper au contrôle frontalier. Alors il s'adresse à la foule avec les tics de langage hippie. Quel pied, mec ! Alors je sais pas combien vous êtes, pour moi, vous êtes 1,5 million, mais c'est géant ! Vous savez que l'autoroute de New York est bloquée. Plein de freaks partout, mec. Et il poursuit avec un blues que Bob Dylan a écrit pour Joan Baez, Walking Down the Line, encourageant la foule à chanter avec lui. Puis, au plein milieu de la chanson, il s'interrompt assez confusément. Attendez, ça va pas, là. Vous êtes vachement nombreux, hein. Et en fait, vous marchez pas en suivant la ligne. Et Dylan non plus, hein. Quand il a écrit la chanson, il la suivait pas. Mais vous devriez chanter, parce que parfois il faut, je sais pas, imaginez qu'il y a un tremblement de terre en Californie, hein, plus d'électricité, plus d'essence. Ah ben là, il faudra bien marcher pour aller là où il faut. Alors peut-être que vous devrez chanter cette chanson, hein. Ou peut-être pas, vous aurez peut-être envie de rester chez vous. Mais vous pourrez aussi la chanter en restant chez vous. Allez, on recommence. Et puis il s'interrompt à nouveau, au milieu de son récital, pour raconter à sa façon l'épisode biblique de l'Exode. En fait, improvise-t-il, ce n'est pas la manne que Dieu a fait pleuvoir pour nourrir Moïse et les Hébreux, mais des pilules d'acide. C'est ça qui, en fait, leur a permis de traverser la mer Rouge sans se faire mouiller. Arlo Guthrie finit en apothéose en chantant le fameux hymne de gospel « Amazing Grace ».
Good night.
Coming in from London, from over the pole. We ever feel much finer coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys.
touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Guy with a ticket to Mexico, no, he couldn't look much stranger. Walking in a hall with his things and all, smiling, said it was a lone ranger coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man.
Il est minuit passé et Joan Baez, qui doit conclure cette soirée chaotique, est introuvable. Les organisateurs savent qu'elle se trouve là, quelque part, qu'elle est arrivée, mais où, personne ne sait. Elle est arrivée dans l'après-midi par hélicoptère, l'engin est venu la chercher sur le parking du Holiday Inn local, où, par un hasard étrange, on l'a installée dans la suite nuptiale. Janis Joplin a aussi profité du voyage, elle n'aurait pas lâché sa bouteille de whisky de tout le trajet. Le temps d'avaler un sandwich, et Joan Baez a dû, comme Melanie, laisser sa maman sur place et embarquer avec ses deux guitaristes accompagnateurs, Richard Festinger et Jerry Shurtleff. Mais ce sera pour le prochain épisode. Pour l'heure, je remercie Marie-Hélène Fauquet qui a réalisé cette émission, Mathilde Verfailly pour son précieux soutien, Julien Dumont à la technique, et je vous dis la suite au prochain numéro.